Bonjour à tous et à toutes. Merci Jean-Marie pour cette invitation à vous présenter qu'est-ce qui est possible de faire avec un nanotrou, une détection électrique dans le domaine de la santé, de la biologie, et comment on pourrait amener ce domaine au diagnostic et à la santé des batteries. Donc mon exposé sera divisé en trois parties. La première partie, je vais introduire le principe de la détection électrique à travers un nanotrou. Quels sont les types de nanotrous que l'on utilise actuellement pour un certain nombre d'applications, et surtout discuter avec vous quels sont les enjeux sociétaux, aussi bien dans le domaine de la biologie, de la santé, mais également de l'environnement et de l'énergie. Dans la deuxième partie de mon exposé, je donnerai un exemple emblématique qui est le séquençage d'ADN haut débit. Donc je donnerai un exemple avec ce qui se passe actuellement avec le Covid, et on partira de la double hélice d'ADN jusqu'au séquençage sur une clé USB. Et puis, la dernière partie, ça sera un exemple de comment on peut essayer donc, de diagnostiquer l'état de santé des batteries en détectant en particulier des espèces parasites. Donc comment marche en fin de compte un détecteur électrique à particules ou à molécules ? Donc, vous avez ici donc, un petit trou nanométrique de l'ordre de quelques nanomètres. Donc, vous avez une solution ionique avec des électrodes et vous allez appliquer une différence de potentiel. Donc, vous allez mesurer un courant, d'accord ? C'est une loi d'Ohm. Et donc, ce courant, il va dépendre de quoi ? Il va dépendre du trou donc, que vous avez, c'est-à-dire de la géométrie du port, mais également donc, de la concentration ionique. Ici, donc la conductivité de la solution, ça dépend essentiellement de la concentration en sel, de la nature des sels et de la viscosité du milieu. Donc ici, vous voyez, donc on a un courant, et lorsqu'une particule va entrer à l'intérieur de ce trou, ce que l'on voit ici, bah, cette particule, qu'est-ce qu'elle fait ? En fin de compte, elle bloque partiellement les ions. Donc le courant chute. D'accord, c'est ce qu'on a ici. Donc, on a une chute de courant qui va durer un certain temps en fonction de la taille de la particule, en fonction des interactions éventuellement de la particule avec la surface. Donc, la particule, elle va ressortir. Donc, on retrouve en fait ici le courant de port vide. Et puis, bien évidemment, même si c'est une technique molécule unique, il faut faire de la statistique. Donc, on regarde ce qui peut se passer pour un certain nombre de particules. Et donc, on voit qu'on a donc des chutes de courant que vous avez ici, donc qui sont un peu différentes. Et ce qui est important à ce stade de retenir, c'est qu'on va voir trois paramètres très importants. Le premier paramètre, c'est ce qu'on appelle le courant, l'amplitude de courant de blocage ici, qui est tout simplement la différence entre le courant de port vide et le courant bloqué lorsque vous avez une espèce à l'intérieur du trou. Donc typiquement, ce paramètre permet de déterminer la nature chimique d'une molécule comme l'ADN ou une protéine. Vous avez un deuxième paramètre qui est important ici, qui est la durée des événements, c'est-à-dire la durée du blocage de courant. Elle va dépendre par exemple de la taille de la molécule, de la conformation de la molécule. Et puis vous voyez qu'on a différents événements, et donc on peut mesurer ce qu'on appelle la fréquence des événements. Et avec cette fréquence des événements, on peut remonter à la concentration en molécules. Donc cette technique, ce qui est important de comprendre, elle ne nécessite pas de marquage, par exemple d'utiliser un fluorophore. On travaille donc en molécule unique, donc on est extrêmement sensible, et on va voir qu'on est aussi très spécifique, puisqu'on peut voir des modifications chimiques sur des bases, par exemple de l'ADN. L'autre point extrêmement important, c'est que cette technique, elle est ultra rapide, peu coûteuse. Un setup, c'est quelques milliers d'euros, voire 1000 euros. Et puis, bien évidemment, c'est très important si on veut penser, on va dire, à la médecine personnalisée. Donc, cette technique, on peut la transporter. On peut la transporter jusqu'en Guinée. Je vous montrerai un exemple. Alors, c'est quoi ces petits trous ? Ces petits trous, historiquement, ce sont des canaux ou des ports protéiques qui ont été utilisés. Et ça représente à peu près 85% des publications. Alors, vous avez un exemple ici. Donc, ça, c'est une toxine qui est le staphylococcus aureus ou staphylococcus doré. Donc en fait, simplement, la protéine elle va faire un trou dans les cellules et c'est comme ça qu'elle peut, par exemple, tuer une cellule. Et nous, on va l'utiliser comme un capteur parce qu'elle est extrêmement résistante à l'environnement, mais également, elle est extrêmement, cette toxine, sensible donc aux molécules biologiques. Alors, si on veut essayer de comprendre des choses à une échelle où on a un peu plus de confinement, on peut utiliser ce qu'on appelle des nanopores biomimétiques. Donc là, vous avez un exemple avec un nanotube de cyclodextrine. Donc là, le diamètre est typiquement de 0,5 nanomètre. Là, on avait environ 1,5 nanomètre. Donc maintenant, depuis quelques années, donc on peut travailler sur d'autres types de pores, donc des pores ce qu'on appelle artificiels. Donc ces pores, donc la membrane en fin de compte de lipides va être remplacée par une membrane solide qui peut être soit par exemple du nitrure de silicium, soit des polymères. Et donc ce qu'on peut voir ici, c'est que typiquement on peut faire des trous de l'ordre de 1 nanomètre à 150 nanomètres en utilisant un microscope, soit faisceau d'ion, soit à faisceau d'électrons. Et typiquement, l'épaisseur de la membrane, c'est quelques nanomètres à quelques dizaines de nanomètres. Donc on peut aussi utiliser des membranes polymériques, comme vous avez ici. Donc là, on utilise des ions lourds, argon, krypton, pour faire des trous. Là, c'est des membranes de PET. Et typiquement, on peut faire des trous de quelques dizaines de nanomètres à quelques centaines de nanomètres. L'avantage de ces membranes, c'est qu'on peut avoir une grande densité de trous qu'on peut contrôler jusqu'à 19 pores par centimètre carré. Et on peut aussi utiliser, comme vous le voyez ici, soit des pipettes de verre ou des pipettes de quartz qu'on va étirer et qu'on va aller pouvoir planter dans une cellule pour regarder une réaction chimique. Donc, on a des pores naturels, des pores artificiels, et puis depuis, je dirais, 5, 6, 7 ans, en fait, un certain nombre de groupes dans le monde essayent de travailler avec ce qu'on va appeler des pores hybrides. Donc, les pores hybrides, donc, c'est l'association entre un canal naturel protéique, qui a une extrême grande sensibilité, en particulier au milieu aqueux, avec des membranes solides, comme vous avez ici, pardon, là, ou là, ou bien des membranes polymériques. Donc ça présente les avantages d'avoir une membrane solide et une sensibilité qui est amenée par le capteur qui est le pore protéique. Et puis vous avez également un exemple ici où vous avez une membrane solide sur laquelle en fait on vient éclater une vésicule de lipides. Donc ça présente un avantage, ça permet de contrôler l'état de surface, mais ça va permettre également de contrôler le diamètre du pore puisque vous pouvez changer la longueur des chaînes aliphatiques. Donc ça a été utilisé, par exemple, pour comprendre le développement dans le cas de maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire la formation d'agrégats de protéines. Et puis, on peut aussi imaginer d'autres systèmes, comme vous avez ici, où on va insérer un nanotube, ici de nitrure de bore, dans une membrane percée solide pour des applications comme l'énergie bleue. Donc maintenant, je vais discuter avec vous les enjeux sociétaux, qu'est-ce qu'on a été capable de faire, qu'est-ce qu'on sera peut-être capable de faire dans quelques années avec les nanopores. Donc, le premier point important en santé, c'est en lien avec le diagnostic. Donc, il existe à l'hôpital énormément de méthodes de diagnostic. Malheureusement, souvent, quand on vous détecte ce qu'on appelle un biomarqueur, c'est-à-dire c'est une molécule qui va être exprimée dans le sang, soit une protéine, soit un acide nucléique, la maladie elle est déjà installée, par exemple pour le cancer. Donc, les enjeux, c'est vraiment de détecter de façon précoce une maladie qui va être une maladie dangereuse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est très important, ça va être de pouvoir aussi prédire sa récidive. Par exemple, toujours dans le cas du cancer. Donc les enjeux, c'est vraiment de pouvoir détecter, donc, je dirais, quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers donc, de biomarqueurs. D'accord ? Et à partir de quoi ? Donc à partir soit d'un échantillon biologique, comme vous l'avez ici. Donc ça peut être, là ici c'est du sang, ça pourrait être un autre type de biofluide. Et je dirais un enjeu encore plus difficile que vous avez ici, c'est-à-dire à partir du sang, j'extrais une cellule, par exemple une cellule qui va quitter sa tumeur primaire et qui va avoir trois destins. Soit va être, cette cellule elle va être foudroyante, elle va refaire un cancer, soit pendant 10 ans, elle va échapper au système immunitaire et elle va faire de la récidive, soit elle va être détruite par le système immunitaire. Donc on peut essayer d'aller chercher des enzymes pour prédire ça, mais il faut que ce système soit extrêmement sensible. Alors deux exemples. Donc le premier cas, c'est le cancer du poumon. Donc on utilise un nanopore, un micro-ARN, qu'on vient chercher avec une canne à pêche, c'est-à-dire c'est une séquence d'acide nucléique et complémentaire de cette séquence de micro-ARN. Alors micro-ARN, c'est un petit ARN, je dirais, de 10-16 nucléotides, qui est très important dans le développement de maladies comme le cancer. Et donc ce que vous voyez ici, c'est qu'on compare en fait donc des patients atteints d'un cancer avec des personnes normales. Et ce qu'on voit, en fait, essentiellement, c'est que ce biomarqueur s'exprime plus au cours de la maladie. Et dans cet exemple qui est vraiment intéressant, on montre qu'on n'a pas cette sensibilité avec la PCR qui est très utilisée actuellement. Un autre exemple qui est utilisé actuellement pour diagnostiquer le cancer de la prostate, c'est de détecter l'antigène prostatique. Donc c'est un petit peptide. Et donc là, on a un exemple en fait, où on utilise une membrane solide. Alors une première pour faire un filtre, et puis une deuxième où on va aller pêcher en fait, cet antigène grâce en fait, tout simplement avec une sonde d'ADN. Et vous voyez qu'on est capable de détecter donc, cet antigène, et je dirais à des très très faibles concentrations. Donc là, on a deux exemples vraiment intéressants. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore utilisé à l'hôpital, mais on peut imaginer dans 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'on aura ce type d'application à l'hôpital. Un autre exemple qui est emblématique dans la recherche, ça fait 60 ans qu'on s'intéresse à essayer de comprendre le repliement des protéines. Il y a eu environ une quinzaine de prix Nobel sur ce sujet-là. Et donc pourquoi c'est très très important ? Donc, on doit comprendre le repliement parce qu'il y a beaucoup de maladies, ce qu'on appelle maladies conformationnelles, qui est liée à un mauvais repliement de protéines. Et dans certains cas, comme vous le voyez ici, ces protéines vont pouvoir former des agrégats. Là, c'est dans le cerveau, et particulièrement dans la maladie de Parkinson. Donc, c'est là, face à un nucléine, elle forme des agrégats. Alors, ce qu'on ne comprend pas actuellement, c'est la cinétique, c'est-à-dire comment, à partir de cette protéine mal repliée, vous allez former ces agrégats. Donc, ça, c'est un premier enjeu. Comment éventuellement empêcher ou ralentir la formation de ces agrégats, et comment on pourrait répondre à ces enjeux en utilisant les nanopores. Donc, vous avez un exemple ici. Donc ça, c'est on va dire un tunnel énergétique. Vous avez d'abord votre protéine dépliée, et puis progressivement, elle va se replier. Donc on peut essayer déjà de bien comprendre toutes ces étapes de repliement ou de mauvais repliement à travers cet espace de conformation, donc en utilisant les nanopores tout simplement comme des filtres moléculaires. Et puis, on peut aller regarder des choses à une échelle plus supramoléculaire. Il y a eu un exemple qui est sorti il n'y a pas très longtemps dans Nature Nanotechnologie, où là, on peut regarder la formation d'agrégats impliqués dans des maladies humaines, depuis le monomère, l'oligomère, jusqu'aux fibres amyloïdes qu'on a ici, en utilisant justement ces membranes solides avec des lipides à leur surface. Alors, un autre enjeu qui est très important et d'actualité, c'est la détection, le diagnostic de virus. Donc là, c'est un exemple qui est très récent. Donc, bien sûr, les enjeux, c'est quoi ? C'est détecter quelques particules virales, je dirais, quelques dizaines, quelques centaines. Ça, c'est le premier point, d'être capable aussi de différencier les variants. C'est aussi extrêmement important dans une crise pandémique. Et bien sûr, le faire à partir d'un biofluide. Donc, dans cet exemple qui est très intéressant, il compare en fait 5 types de virus impliqués dans les voies respiratoires. Et donc, ils utilisent une membrane percée et ils regardent simplement la chute de courant et pour voir si c'est possible de détecter les virus, quelques particules de virus. Alors, je vous ai juste mis ça pour mémoire. Vous voyez, quand on fait typiquement un test ELISA, on est plutôt à 10 puissance 8 particules par millilitre. Donc, on gagne énormément en termes de sensibilité. Donc là, vous voyez, donc c'est le courant, donc premier virus. Bon, vous avez des chutes de courant, coronavirus, grippe, influenza, et puis le dernier, coronavirus. Donc là, par exemple, c'est très facile de différencier ce que vous avez en vert du reste, mais pour les autres, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, ce qui se commence à se développer dans ce domaine, en tous les cas, de détecteurs électriques, c'est donc l'analyse, l'aide, je dirais, à l'identification de ces virus par machine learning. Alors, deux points importants, je ne ferai pas mon exposé dessus, mais juste pour fixer les choses. Donc là, pour pouvoir avoir quelque chose de, je dirais, de reproductible, donc ils ont besoin de 20 paramètres sur cette chute de courant. Donc, je dirais 10 paramètres sur la durée, 10 paramètres sur la hauteur du courant, pour pouvoir arriver, je dirais, à une très bonne distinction des différents virus. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est très, très important, il faut avoir des bases expérimentales solides, des données robustes et suffisamment, sinon ça ne présente pas un intérêt. Un deuxième cas, toujours lié au virus, donc ça, c'était très important, c'est par rapport à la médecine personnalisée. Donc on a tous entendu parler de la crise Ebola, c'était en 2015, donc là, c'est en Guinée. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir tester très rapidement, par séquençage ultra rapide, donc la population et l'évolution du virus. Donc là, ce que vous voyez, c'est que ça tient dans une clé USB. Ça a été développé par Oxford Nanopore, c'est 1 000 euros. Donc, on peut lire environ jusqu'à 1,3 million de bases. On a 512 trous en parallèle. Et ce qui est important que vous voyez ici, c'est que ça tient dans une valise de 50 kg. Donc ça a été emmené. Donc il y a eu un hôpital qui s'est construit. Et donc ça a été un bon exemple de réussite. Le virus fait 19 000 paires de bases. Donc depuis le prélèvement de l'échantillon jusqu'à un séquençage, donc ça ne durait pas plus d'une heure. Par contre, ils ont rencontré des problèmes. Et là, on rejoint le problème du stockage de l'énergie, c'est-à-dire qu'ils ont eu des grandes difficultés, quand on lit ce papier dans Nature, pour pouvoir avoir du réseau électrique. Donc ils ont dû utiliser des générateurs et ils étaient un peu limités par rapport à ça. Donc l'étape d'après, donc on peut séquencer donc l'ADN, c'est un alphabet à 4 lettres, mais je dirais dans les 5-10 ans à venir, vraiment l'enjeu sociétal majeur, ça va être aussi de pouvoir lire un alphabet à 20 lettres, c'est-à-dire de pouvoir décoder les protéines. Alors pourquoi ces protéines, elles sont extrêmement importantes, aussi bien dans le cas normal que dans le cas pathologique. On en a des millions, on a des modifications chimiques au cours de notre vie, et donc il faut pouvoir réussir à identifier ça. Et à l'heure actuelle, en tous les cas, les techniques qui existent, elles sont performantes sur environ 1 million de molécules. Donc si on veut faire des détections à très faible, je dirais, nombre de particules ou de molécules, ce n'est pas possible. Donc je vous montre un exemple, je dirais, qui peut être encourageant. Donc là, l'idée, c'est on utilise un nanopore protéique et on attache en fait les 20 acides aminés différents avec un petit peptide qui va servir de locomotive pour amener, en fin de compte, chaque acide aminé dans le capteur et lire en fait son identité et essayer de regarder aussi des modifications chimiques. Donc ce que vous voyez ici, c'est donc le nombre d'événements en fonction donc de la profondeur de blocage. Un point rouge, c'est une molécule. Elle a une coordonnée en durée et une coordonnée en amplitude. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on est capable de faire la différence entre deux acides aminés qu'on appelle phénylalanine, tyrosine, et simplement, leur différence, c'est un hydroxyle. Donc maintenant, on va essayer de regarder les choses encore un peu plus fines, c'est-à-dire que la masse des acides aminés va être la même, et la question, est-ce qu'on est capable de voir des différences de structure au niveau des isomères? Donc là, vous avez l'exemple ici, vous avez donc isoleucine, leucine, donc on a la même masse, on a une différence de structure, et on a deux pics qui peuvent être identifiés pour donc ces deux isomères. Donc maintenant, on regarde les 20, cet alphabet à 20 lettres, qu'est-ce qui se passe? Donc on est capable d'avoir des signatures électriques, on est capable de voir des modifications chimiques, ce qu'on appelle modifications post-traductionnelles. En revanche, vous voyez qu'on a des indéterminations sur certains acides aminés. Mais je dirais, voilà, c'est une histoire qui commence. Et puis, je dirais, dans 5-10 ans, il a fallu 15 ans à peu près pour séquencer l'ADN à partir du démarrage. Donc, je pense qu'il faudra sensiblement un nombre important d'années pour y arriver. Alors maintenant, si on veut regarder les problématiques aussi dans les enjeux sociétaux au niveau de l'environnement et l'énergie, donc on sait qu'on va avoir besoin croissant en énergie, ce que vous avez ici, donc ça c'est l'équivalent de tonnes, équivalent pétrole en fonction donc de la consommation d'énergie, et elle est principalement liée à l'évolution de la population. Donc le problème, c'est que ce qu'on voit ici, c'est qu'une tonne équivalent pétrole, c'est à peu près la même chose en tonnes équivalent carbone. Donc il faudra un moment réfléchir donc à pouvoir utiliser donc de nouvelles sources d'énergie, énergie renouvelable, surtout avec une faible teneur en carbone. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'actuellement, on ne sait que stocker 1% de ce qu'on a besoin. Donc il faut aussi augmenter cette capacité à stocker l'énergie pour nos besoins. Donc un exemple qui pourrait être très, très intéressant en termes d'énergie renouvelable, c'est l'énergie bleue. Donc c'est un fleuve qui va se déverser dans la mer et on va essayer de récupérer en fin de compte l'énergie qui va être liée entre les différences tout simplement d'osmolarité. Alors on discute depuis un certain nombre d'années sur ce potentiel théorique de l'énergie bleue. Donc ça pourrait représenter 1 ou 2 térawatts, c'est-à-dire l'équivalent de 1000 à 2000 réacteurs nucléaires. Le problème jusqu'à présent, c'est qu'on avait des très mauvais rendements, on utilisait des membranes hémiperméables, mais qui n'arrivaient pas bien à mouiller l'eau. Donc l'avancée sur la science des matériaux donc, a permis donc, d'améliorer les rendements en utilisant par exemple ici du molybdène ou du nitrure de bore. Donc ce sont des matériaux avec des surfaces chargées qui vont mouiller facilement l'eau et donc on va avoir un flux électro-osmotique très important. Et donc on peut obtenir, on va dire, ce type de rang de puissance entre 10,3 et 10,6 watts par mètre carré. Donc la difficulté, bien sûr, ça va être de monter en TRS, c'est-à-dire de faire par exemple une membrane à 3, puis ainsi de suite pour pouvoir avoir suffisamment d'énergie. Et le dernier point dans cette présentation des enjeux sociétaux, mais qui n'est pas exhaustif, c'est bien évidemment, on l'a vu au fur et à mesure des différents cours de Jean-Marie, une façon peut-être d'améliorer le stockage d'énergie, c'est de pouvoir diagnostiquer la batterie, d'accord, de pouvoir la soigner, comme on peut le faire, je dirais, dans l'être humain depuis de nombreuses années. Donc je vais commencer la deuxième partie de mon cours. Donc on va partir, je dirais, de la structure de l'ADN et je vais vous exposer les faits marquants, hein, ça ne sera pas exhaustif, jusqu'à un exemple récent en Angleterre avec l'application de cette technique pour le Covid. Donc, on est dans les années 53. Vous avez un joli diagramme de diffraction X à partir d'un capillaire d'un cristal d'ADN. Donc, on peut reconnaître la structure en double hélice ici. Et donc, quelques années plus tard, ça a donné le prix Nobel à Crick, Watson et Wilkins. Donc, ce qui est important pour nous de voir, c'est que son diamètre, c'est à peu près 2 nanomètres. Ça va être important pour la suite. Donc, on a une extrémité 5' phosphate, 3' OH ici, et c'est un brin antiparallèle. Et donc, en fait, ils sont associés par des liaisons hydrogène, mais ça ne suffit pas. Il y a des contre-ions et puis des interactions hydrophobes qui vont faire que l'hélice est stabilisée. Sinon, simplement, il y aurait une répulsion et l'hélice se dénaturerait. Quelques années plus tard, donc on est en 1977, donc il y a un papier qui sort dans PNAS. Et donc, pour la première méthode de séquençage de l'ADN, donc c'est un séquençage enzymatique, donc on va polymériser l'ADN, je vais l'expliquer dans un instant, à partir d'un bras matrice, et simplement, on va empoisonner la réaction. Et donc, on va pouvoir lire donc la séquence d'ADN à partir donc, d'un gel d'électrophorèse, ce que vous avez ici. Donc ça, c'est une autoradiographie, hein, donc c'est tout simplement une empreinte de cette gel, puisqu'on va avoir en fait des éléments radioactifs qui vont émettre sur le film, et donc on peut lire ici la séquence. Alors ce qui est important pour nous, vous voyez, c'est environ 100 bases par demi-journée, donc on peut faire une petite règle de 3, donc il faudrait 93 150 années pour séquencer le génome humain. Donc on va discuter comment accélérer ce temps, comment on va dire négocier les coûts aussi. Alors, deuxième méthode, la même année dans PNAS qui va sortir, c'est une méthode de dégradation chimique. Donc tout simplement, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait couper l'ADN en petits fragments en utilisant donc, la piperidine, on va couper des liaisons phosphodiester en fragilisant ces liaisons. Et donc à chaque fois, on peut utiliser une molécule qui va spécifiquement fragiliser les bases de l'ADN. Et donc on va pouvoir lire ici cette séquence. Alors ça a été abandonné. Vraisemblablement parce que c'est un peu compliqué à mettre en œuvre. Et donc, c'est surtout cette méthode de Sanger qui a été développée. Donc là, c'est, je pense, un exemple historique. À ma connaissance, 3 ans après, il y avait un prix Nobel. Donc, c'est très, très rare qu'il y ait si peu de temps entre une découverte et puis le prix Nobel de chimie pour ces deux groupes. Donc maintenant, je vais vous expliquer très brièvement comment ça marche, le séquençage, comment ça marchait. Donc en fait, on va générer avec des ciseaux moléculaires des morceaux d'ADN que vous avez ici. Donc on va les séparer tout simplement en chauffant, on les dénature. Ensuite, on va rajouter ici, vous voyez, un petit fragment d'ADN, ce qu'on appelle un primer. On va rajouter ensuite les briques élémentaires qui vont permettre donc de polymériser l'ADN, c'est-à-dire les nucléotides. Et puis, on va utiliser en fait, ce qu'on va appeler des didésoxynucléotides, c'est-à-dire qu'ici, on retire un OH, là, et ça va simplement bloquer la réaction chaque fois qu'on va lire en fait, ce didésoxynucléotide. Et donc, ça n'aurait jamais marché s'il n'y avait pas eu un autre prix Nobel sur la découverte d'une enzyme qui est essentielle pour notre vie, ce qu'on appelle la DNA polymérase. Donc ça a été découvert en 1959 par Kornberg et Ochaa. Donc elle permet de réguler la réplication, la réparation de l'ADN, la recombinaison de l'ADN. Donc là, maintenant, on avance dans le temps, on est dans les années 86, donc il y a une découverte qui est très importante, c'est de pouvoir en fait utiliser cette technique, mais de la faire sur des capillaires, donc des petits capillaires en verre, et donc en utilisant non plus de la radioactivité, mais un fluorophore. Et on va avoir un fluorophore spécifique pour les différentes bases de l'ADN. Donc en fin de compte, on va faire migrer ces fragments d'ADN. On va avoir une lecture automatisée par laser pour chaque fluorophore et on va pouvoir comme ça lire les différentes bases de l'ADN et voir si on a des anomalies. Donc on progresse toujours dans le temps. Là, on arrive à peu près dans les années 2001, donc 15-14 ans avant, donc un consortium mondial donc avait comme projet de séquencer le génome humain. Donc, pour faire vite, en fin de compte, cette aventure, ça a mis 13 ans. Donc, le coût, c'était 3 milliards de dollars pour 3,4 10 puissance 9 paires de bases. Hein, donc, en gros, on a pu positionner les gènes sur les différents chromosomes. Alors, ce qui est important, c'est qu'on a compris qu'on avait peu de gènes, en fin de compte, qui ont une information qui vont coder pour les protéines. C'est environ 1% du génome. On a pu identifier environ 10% de ces gènes associés à des maladies. Et ce qu'on a compris aussi, c'est qu'on a d'autres facteurs qui peuvent être très importants en fait, au cours de notre vie, c'est-à-dire l'environnement, tout ce qu'on va appeler épigénétique. Donc on continue cette aventure du séquençage. Donc là, c'est une projection, on est en 2001, donc on vient d'avoir le premier séquençage. Et puis donc l'idée, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir en fait, faire un séquençage à environ 1 000 $ et est-ce qu'on va pouvoir le faire en une heure? Donc ça a pu être réalisé 15 ans après. Et donc on a différentes techniques de séquençage qui ont évolué. Donc de façon rapide, donc on a eu d'abord ce qu'on a appelé les technologies de deuxième génération. Donc en fait, on génère plein de fragments, des millions de fragments d'ADN. On les dénature, on les amplifie. Donc on les pose en fait sur des surfaces. Donc on a une petite amorce ici. Donc on va avoir un fluorophore. Pareil, un didésoxy, et puis donc on va illuminer avec un laser, on va pouvoir lire les bases. Après, la base va être. On va libérer le fluorophore, on va avoir un hydroxy, et ainsi de suite, on peut continuer. Donc, l'avantage de cette technique, à l'heure actuelle, le maximum, c'est ça. Ça peut lire des milliards de lectures, mais des courtes séquences, quelques centaines de paires de bases. Il faut lire au moins 25 fois, et puis c'est un vrai travail de bioinformatique, parce que c'est un puzzle compliqué. Qu'il faut refaire, et c'est d'autant plus compliqué que si on a des séquences répétitives dans le génome, il faut arriver à retrouver cet ordre-là. D'accord ? Donc maintenant, on avance toujours. Donc là, on va vers le domaine molécule unique, et par deux approches, que je vais vous expliquer, donc la fluorescence, et puis le séquençage par nanopore. Donc la fluorescence a commencé en 2011, et en 2014, on a pu commencer à pouvoir utiliser le séquençage par nanopore, simplement avec un signal électrique, comme je vous l'ai expliqué. Donc, alors, le séquençage par fluorescence en molécule unique, donc, l'idée, c'est de faire, en fait, vous avez toujours ce fragment d'ADN, vous mettez une boucle d'ADN ici, vous mettez ce qu'on appelle une amorce, une enzyme qui va polymériser, et donc l'astuce d'avoir mis ces deux boucles d'ADN ici, c'est que vous avez une lecture continue. Et en fin de compte, la fin de vie, c'est simplement la fin de l'enzyme. Donc vous pouvez lire énormément, vous corrigez des erreurs aussi, puisque plus vous lisez deux fois, plus vous corrigez des erreurs. Et donc là, comment ça marche? Vous avez environ jusqu'à 1 million de puits, avec des diamètres de quelques dizaines de nanomètres. Donc vous allez envoyer un laser, donc Jean-Marie Tarascon a bien expliqué ce que c'était que l'onde évanescente. Ben là, on récupère l'onde évanescente, avec donc les fluorophores qui vont être incorporés, on va pouvoir lire la séquence d'ADN. Donc jusqu'à présent, on utilisait ce qu'on appelait une pression hydrostatique, donc on était limité à la taille de je dirais, relativement faible de longueur des chaînes d'ADN. Et puis, il n'y a pas très longtemps, un papier qui est sorti dans Nature Nanotechnologie. En fin de compte, si on contrôle bien ce qu'on appelle la force électrique, donc on peut pousser des longues chaînes à rentrer donc dans ce petit puits et donc jusqu'à des chaînes de l'ordre de 50 kilobases. Alors si on fait un petit point, elle a quand même des limitations. On est toujours limité à la taille des segments, parce que même si c'est des 50 kilobases, ben, ce n'est pas encore des très très longues chaînes. Le coût est élevé, hein, juste pour fixer les idées, c'est 350 000 à 700 000 euros par rapport à 1 000 euros tout à l'heure. Et puis le coût aussi de la manip est relativement élevé. Donc on est obligé aussi de prendre en compte ça si on est dans une optique médecine personnalisée. Donc maintenant, je vais introduire d'où on est parti pour arriver en fin de compte au séquençage ultra rapide d'ADN. Alors, c'est toujours pareil, souvent, la technologie elle existe depuis très très longtemps. Et là, c'est un exemple, en fait, ici, c'est 1953, donc c'est un brevet qui a été publié par Coulter. Et donc, l'idée, bah, c'est tout simplement, vous avez une membrane, vous avez un trou, hein, comme je l'ai expliqué jusqu'à présent, vous faites une différence de potentiel, vous avez la solution ionique, on en a déjà parlé, donc vous avez un courant ionique, ensuite, vous avez des chutes, des signatures de courant qui vont dépendre de la taille des molécules, et vous pouvez aussi regarder des interactions ligand-molécules. Donc ce brevet a été énormément exploité dans tout ce qui est, je dirais, laboratoire de biologie, avec ce qu'on appelle les FACS, c'est-à-dire les trieurs de cellules, de bactéries, en envoyant un laser sous un flux microfluidique. Donc maintenant, comment on passe d'un compteur, je dirais, de particules à un compteur moléculaire ? Donc là, il y a eu deux papiers qui sont sortis dans les années 90 dans Nature, dans le groupe de Parségian. Donc l'idée, c'est d'utiliser, en fin de compte, ici un petit trou de 150 micromètres dans lequel on va peindre une bicouche de lipides. On va envoyer un canal qui va former un trou unique dans cette bicouche de lipides. Et vous voyez qu'en fait, ici, dans ce premier exemple, on peut l'utiliser comme un trieur moléculaire. Donc on peut, par exemple, séparer des tailles de chaînes de polymères, polyéthylène glycol. Ça pourrait être la même chose avec des molécules biologiques. Ensuite, un papier historique qui va vraiment enclencher le séquençage ultra rapide d'ADN. Il est cité des dizaines de milliers de fois. Donc c'est le papier de John Kazianowicz. On est donc en 1996. Donc je vous rappelle, la première application de ça, c'était donc 2014. Donc il faut du temps. Alors là, ce papier, donc, on a un port protéique ici qui est l'alpha-hémolysine, on l'insère dans une bicouche lipidique, et puis ils vont regarder le passage soit de molécules d'ARN ou d'ADN. Donc la première question qui était posée, c'est en fin de compte, si on veut un jour faire du séquençage ultra rapide d'ADN, il faut déjà prouver que la molécule passe à travers le trou. Donc c'est ce qui a été montré sur ce papier, en fait tout simplement en regardant ce qui va sortir en fin de compte du nanopore. Donc ils vont prendre de l'ADN double brin et de l'ADN simple brin, et vous voyez que l'ADN double brin n'est pas présent quand on veut l'amplifier par PCR en sortie de pore. Donc ça veut dire simplement que l'ADN double brin ne peut pas passer, tandis que l'ADN simple brin traverse bien le pore. Première information. Deuxième information, vous vous souvenez des temps, 13 ans, pour séquencer le génome humain. Donc là, on peut faire de la même façon un petit calcul. Donc le temps moyen, c'est de l'ordre de la microseconde ou de quelques microsecondes, hein, de passage d'une base. Donc ça fait rêver, on pourrait séquencer le génome humain en environ 7 heures. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on a la résolution pour le faire ? Donc il y a eu de nombreux travaux, hein. Je m'attache à vous montrer les faits marquants, il y a des centaines, voire des milliers de papiers sur ce sujet-là. Donc là, maintenant, on va essayer de différencier cet alphabet à quatre lettres. Donc vous avez ici des séquences alternées de C, de T. Ce qui est très important de voir, donc là, c'est le temps en fonction du courant de blocage. Donc on peut faire des différences sur des séquences. Attention, à condition qu'elles soient suffisamment longues. Par rapport à quoi ? Par rapport à la longueur du port. Donc on va définir plus tard ce qu'on va appeler la zone de lecture, en fait, pour le séquençage. Et ça va être très, très important. Avec ce type de canal, si les tailles de chaîne sont de l'ordre de quelques dizaines de nucléotides, on ne peut plus faire la différence. Deuxième point important, si vous voulez séquencer, ben, il faut pouvoir suivre l'orientation du port. 5', 3'. Donc il y a un papier qui est sorti dans les années 2005, où tout simplement, donc là, ils font des petites constructions tige-boucle, et donc ça permet, en fin de compte, de pouvoir déterminer l'orientation, donc l'entrée soit du côté 5', soit du côté 3', de l'ADN dans les nanopores. Donc maintenant, on continue, c'est-à-dire comment on peut améliorer la résolution. Donc une première façon d'améliorer la résolution, donc il y a un papier qui est sorti dans JAX, dans le groupe d'Hagen-Bellet, donc en 2006. Donc l'idée, simplement, ben on met un adaptateur. Alors cet adaptateur, il va rentrer dans ce petit trou naturel qui est l'alpha-hémolysine. Il va avoir deux fonctions. Il va diminuer le confinement, donc il va augmenter la résolution, et puis il va servir à attraper les nucléotides. Donc c'est ce que vous avez ici. Donc vous avez le port, vous avez la cyclodextrine, hein, qui est un sucre circulaire, et vous avez un nucléotide ici en jaune. Donc ça, c'est tout simplement le port vide avec la cyclodextrine, et on voit des petites marches ici pour les nucléotides. Et puis vous pouvez voir ici qu'on a une résolution individuelle pour les quatre bases de l'ADN. Mais cette approche n'a pas été continuée pour le séquençage, parce que l'idée, il y a eu beaucoup de papiers qui sont sortis, c'était d'utiliser tout simplement une enzyme à l'entrée, donc un ciseau moléculaire, de couper et puis de lire. Mais ça ne marchait pas, il y avait beaucoup de taux d'erreur. Alors maintenant, on a parlé un peu de canaux biologiques. Est-ce qu'on est capable de faire la même chose avec des matériaux, des semi-conducteurs ou autre chose ? Donc ça, c'est le mieux qu'on puisse obtenir actuellement avec des membranes solides en termes de résolution pour l'ADN. Donc c'est du MOS2, donc on a une membrane qui fait de l'ordre du nanomètre. Et donc l'astuce sur ce papier, ça a été bien évidemment d'avoir une membrane très très fine, mais également d'utiliser des liquides ioniques. Donc les liquides ioniques, vous allez changer complètement la viscosité, et donc ça va augmenter les temps et la résolution. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc on a le courant de blocage en fonction donc du temps de blocage. Donc chaque couleur correspond en fin de compte à une base de l'ADN. Donc ce qu'on voit en fin de compte, les temps sont distribués très largement. Donc c'est difficile de discriminer avec les temps. Par contre, quand on regarde ici donc le nombre d'événements en fonction de la profondeur de blocage, donc on peut arriver à séparer les quatre bases de l'ADN simplement avec ce courant d'amplitude. Alors toujours pareil, comment progresser en fin de compte pour arriver au séquençage ultra rapide sur clé USB ? Donc ça a été possible grâce à la découverte de nouveaux canaux protéiques, de nouveaux ports qui ont été explorés par en particulier Oxford Nanopore. Donc en gros, il faut comprendre, on doit améliorer deux choses. La zone de lecture, donc elle doit être plus petite. Pourquoi elle doit être plus petite ? Parce que sinon, si j'ai une séquence, donc le nucléotide qui va être à N+1 ou N-1, ben on va avoir une partie de cette information dans le courant de blocage. Donc il faut réduire cette zone de lecture, premier point. Et puis il faut aussi arriver à réduire le confinement. On va augmenter les interactions donc avec donc l'ADN qui va passer à travers le port. Donc au départ, c'était le port historique qui a été abandonné, alpha-hémolysine. Vous voyez, le port avait 1,5 nanomètre, une zone à peu près de lecture équivalent à 10 bases. Donc MSPA donc, a été utilisé. Donc, c'est une porine, c'est-à-dire c'est un port bactérien qui est utilisé pour le transit de petites molécules. Donc ce gros intérêt, c'est que déjà le diamètre apparent est réduit, et puis surtout la zone de lecture passe à 4 nucléotides. Et puis là, vous avez un autre exemple qui a été utilisé plus récemment. Donc ça, c'est tout simplement un port qui est utilisé pour la sécrétion des bactéries, donc pour communiquer entre la bactérie et le milieu extérieur dans sa membrane externe. Et donc là, on a encore une diminution du diamètre ici du canal. Et puis ça, c'est un dernier papier qui vient de sortir il y a quelques mois, où là, on fait un complexe de deux ports. Et donc là, on va changer en fait la structure du port, c'est-à-dire ce qu'on a appelé feuillet bêta, et ça donne encore une meilleure résolution en termes de fidélité, c'est-à-dire qu'on a moins besoin de lire deux fois une très grande séquence d'ADN. Donc, on augmente l'interaction avec les bases de l'ADN, on diminue la zone de lecture, mais on arrive presque au séquençage ultra rapide. Il manque une dernière étape, deux étapes, on va dire. L'étape, maintenant, ça va être, on a nos têtes de lecture, il va falloir pouvoir lire l'ADN à partir d'un double brin. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut utiliser ce qu'on appelle un moteur moléculaire. On en a plein dans toutes nos cellules, cellules eucaryotes, procaryotes. Et donc, ce moteur moléculaire, qu'est-ce qu'il va faire ? En fin de compte, il va dérouler l'ADN double brin, et donc il va aussi avoir une force pour le faire rentrer à l'intérieur ici du port protéique en utilisant de l'ATP. Donc ici c'est un exemple, vous avez donc un moteur moléculaire de virus, donc on fait passer une séquence d'ADN, donc on cumule sur plusieurs expériences, donc il y a une trentaine d'expériences. et ils regardent même si on a des défauts de base, si on est capable de les voir. Donc on gagne en fait en diminution de la vitesse de translocation puisque ce moteur en fait fonctionne plus doucement que tout simplement quand on utilisait une force électrique. D'accord ? La lecture est progressive de l'ADN simple brun. Et puis la dernière étape pour avoir pu développer, je dirais, le séquençage ultra rapide, ça a été de remplacer la membrane lipidique par une membrane polymérique de type copolymère, D-bloc, tri-bloc. Un dernier exemple pour finir sur cette histoire du séquençage de l'ADN par nanopore, c'est le cas du Covid. Donc je rappelle, hein, donc vous êtes complètement, on est malheureusement complètement dans cette actualité. Donc on a une période à peu près de 5 jours, on va dire, d'incubation, puis après on peut faire un diagnostic. Au niveau des anticorps, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut au minimum entre 10 et 20 jours pour faire par exemple un test de type ELISA. Quelques données importantes, quand on fait ce prélèvement, on a entre 10,6 et 10,4 particules, ça dépend à quel niveau on fait ce prélèvement. Et encore une donnée intéressante, c'est-à-dire qu'au pic d'infection, on est à peu près entre 19 et 10, 11 particules virales. Mais heureusement, notre système immunitaire, on a quand même détruit un certain nombre, puisqu'on en aurait de 10, 5 à 17, on va dire, des virions infectieux. Alors là, c'est un essai qui a été réalisé. Ça n'a pas été encore validé par les hôpitaux en Angleterre, mais ça a été réalisé dans 4 hôpitaux en Angleterre. Donc l'idée, c'était de pouvoir essayer de diagnostiquer le Covid. Et surtout, ça a été utilisé pour détecter les variants, en particulier le variant anglais. Ce qui est important de comprendre, la PCR ne peut pas nous renseigner sur l'évolution du virus. Donc il faut vraiment séquencer. Donc là, pour nous, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a besoin, en fin de compte, à partir d'un biofluide de 140 à 200 virions pour pouvoir faire cette réaction. On n'a pas de faux négatifs, on a une très très bonne spécificité, et puis on peut traiter 480 échantillons en 2 heures. Une remarque très importante, attention, le diagnostic ne dit pas, ne prédit pas le pouvoir infectieux. D'accord ? Donc pour pouvoir faire le pouvoir infectieux, il faudrait reprendre d'autres échantillons, peut-être les injecter dans des cellules, regarder comment ça se passe, refaire peut-être une PCR, et puis même si vous travaillez dans une cellule, ce n'est pas sur l'être humain. Voilà. Donc je dirais qu'il y a des perspectives intéressantes sur ce séquençage ultra rapide d'ADN, utilisation des nanopores. J'espère que je vous ai convaincu. Alors maintenant, comment on va pouvoir passer aux batteries ? Donc comment on pourrait utiliser, je dirais, ce détecteur électrique à un diagnostic pour les batteries. Alors, il faut se rappeler que la première question qui est très importante, qui a été beaucoup discutée hein, dans les cours de Jean-Marie, déjà, est-ce que la batterie, ça serait une solution au développement durable ? Et donc, la réponse, c'est oui à certaines conditions. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui, et puis surtout dans cette série de cours qui a été au Collège de France, des comment, en fin de compte, injecter de l'intelligence dans les batteries, comment les diagnostiquer, et comment, en fin de compte, augmenter sa durée de vie. D'accord ? Et puis, donc, il y a d'autres points importants à prendre en compte. Et bien, il faut évidemment que ça soit plus éco-compatible, c'est-à-dire si on peut mettre du biosourcé, c'est mieux. Ce qui a été exposé dans le premier cours de Jean-Marie, si on peut arriver à faire la batterie comme des boîtes de Lego et puis changer chaque partie, bah, ça permettra un recyclage et moins de pollution. Puis un certain nombre, non plus, de voies comme essayer également de récupérer l'énergie qui est produite par des énergies renouvelables et de pouvoir les utiliser dans les batteries. Alors, donc quelques rappels. Donc ici, on l'a vu aujourd'hui et puis dans les cours précédemment, en fin de compte, on peut mimer ce qui peut se passer dans l'être humain, c'est-à-dire on peut essayer d'avoir des capteurs pour avoir le micro-environnement, à la fois local ou à plus grande échelle. Donc on l'a vu au niveau de capteurs optiques, c'est possible. On peut voir l'évolution de la SEI, on peut avoir un certain nombre d'informations thermodynamiques. D'accord ? Et donc l'idée, bah, c'est de pouvoir surveiller l'état de santé en temps réel de la batterie. Alors il existe de nombreuses techniques de diagnostic, que ce soit in situ ou en dehors de la batterie. Mais à l'heure actuelle, Il n'existe pas, on va dire, de technologie molécule unique associée à une détection qui peut être électrique ou autre pour essayer d'aller chercher des espèces parasites dans les batteries. Et donc, je vous rappelle que c'est une des priorités dans le plan batterie 2030, c'est-à-dire de pouvoir diagnostiquer, de pouvoir soigner, réparer. Alors ça aussi, ça a été introduit dans les différents cours de Jean-Marie Tarascon. Et juste un rappel, en fin de compte, pourquoi on a besoin de diagnostiquer, pourquoi on a besoin de réparer, en fin de compte. On voit ici qu'au cours de cycles de batterie, on a des augmentations en température, donc on peut avoir des fissures ici au niveau des électrodes, donc des craquures mécaniques. On peut avoir aussi des métaux qui vont se dissoudre et qui vont contribuer à la formation de la SEI. Mais également au cours des cycles d'oxydoréduction, donc on va pouvoir avoir certaines espèces parasites qui vont pouvoir se former. Donc le but, c'est d'essayer de diagnostiquer, d'identifier ces espèces parasites dans un premier temps. Dans un deuxième temps, si on veut préserver la batterie, son état de santé, ça serait de pouvoir les capturer. Et puis de pouvoir peut-être associer les deux, c'est-à-dire du diagnostic, mais également de la prévention par rapport, je dirais, au vieillissement de la batterie en essayant de capturer des espèces parasites. Alors, ça aussi, ça a été introduit, en fin de compte, le potentiel des batteries lithium, lithium-soufre dans les différents cours. Simplement, on rappelle ici cette grande énergie potentielle spécifique, une autonomie pour les voitures tout électriques. Elle serait peu coûteuse, le soufre est abondant, il n'est pas trop polluant. Mais on est confronté à un certain nombre de problèmes ici, c'est-à-dire que lors de la navette redox, on va avoir la formation d'espèces insolubles dans l'électrolyte. Donc ça va passiver l'anode, on va perdre des matériaux actifs et en fin de compte, on va perdre de la capacité de la batterie. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Donc en travaillant dans une solution aqueuse, donc est-ce qu'on peut détecter ces espèces parasites ? Voilà. Avec quelle sensibilité ? Est-ce qu'on peut les capturer ? Donc ce travail a été fait en collaboration avec le groupe de Jean-Marie Tarascon. Donc la problématique, on a un port unique qui est inséré dans une bicouche lipidique. Vous le voyez ici, c'est un port d'alpha-hémolysine. Donc on va essayer de détecter donc des espèces de sodium soufre avec des différences d'un soufre entre 3, 4, 5 soufres. Donc là, c'est le dispositif expérimental. Donc comment on contrôle en fin de compte l'entrée de ces espèces dans le port ? Tout simplement avec le flux électroosmotique. Le flux électroosmotique, c'est un flux d'eau qui va suivre le déplacement des ions. Et la règle, en fait, c'est que ça va dépendre de la nature du canal, c'est-à-dire de la sélectivité du canal. Et la sélectivité du canal, c'est simplement la facilité avec laquelle un ion va traverser le canal. Ici, par exemple, les ions Cl- traversent plus facilement le canal. Donc, en fait, le sens de déplacement du flux électroosmotique va être ici. Alors, je vous rappelle que la construction de ce port, c'était 15 angström. Et donc, quand on essaye de détecter, en fin de compte, ces polysulfures juste avec ce trou et dans ces conditions, tout simplement, je pense que la diffusion est trop rapide et donc on n'arrive pas, en fin de compte, à les voir. Alors, comment essayer de les voir ? L'idée, ça a été d'utiliser les adaptateurs moléculaires. Je vous en ai parlé dans l'histoire du séquençage, c'est-à-dire les cyclodextrines. Alors, à partir de là, on se pose au moins deux questions, c'est-à-dire quelle va être la meilleure cyclodextrine, le meilleur adaptateur moléculaire pour capturer les polysulfures. Ça, c'est la première chose. Comment on va pouvoir étudier l'interaction entre les polysulfures et les cyclodextrines ? Et en fin de compte, est-ce que la taille de la chaîne de ces polysulfures peut influencer l'interaction ? Donc ici, vous avez donc un rappel, donc les cyclodextrines en fonction donc du nombre de cycles ici en glucopyranose, vous avez une taille entre 6 angström et 9,5 angström. D'accord ? Et donc comment on va pouvoir regarder cette interaction en utilisant en fin de compte de la RMN du proton ? Et donc ce qui a été montré, c'est qu'on peut suivre donc l'interaction entre la cyclodextrine et puis un complexe, ici Na2S5, grâce au déplacement de protons. Et ce qui est le plus important, c'est le proton H3 qui est ici, qui est à l'intérieur, qui veut bien dire qu'on a bien une interaction et ça se complexe à l'intérieur. Alors maintenant, quel est le meilleur cycle d'extrême? Quel est le meilleur adaptateur moléculaire? Donc vous voyez ici, avec cette courbe-là, qu'on peut suivre le déplacement chimique en fonction de la concentration de Na2S5. Et donc, à partir donc, de l'ajustement de cette courbe expérimentale, on peut déduire les constantes d'association. Et vous voyez que la meilleure interaction, l'interaction la plus forte, elle est obtenue donc, avec la bêta cyclodextrine. Maintenant, deuxième question, quelle est l'influence de la taille des chaînes sur cette interaction? Donc, on voit ici que cette interaction, en fin de compte, elle dépend de la longueur des chaînes, Na2S5 jusqu'à Na2S3. Et donc, si on regarde en fait par cristallographie dans des complexes d'inclusion où on fait de la simulation moléculaire, on retrouve en fait également une influence de la taille de la chaîne dans l'interaction. Donc, ce que vous voyez sur ce graphe-là, on a montré meilleure affinité avec la bêta-cyclodextrine. L'affinité dépend de la taille du polysulfure. Ce qui a été possible également de montrer, c'est qu'on a une stoichiométrie 1, donc un polysulfure pour une bêta-cyclodextrine. Et ce qui est très important, si un jour on va en faire des applications de ces systèmes-là, on peut réverser l'équilibre en jouant sur des faibles différences de température. Alors maintenant, on va essayer de détecter et d'identifier les polysulfures. Donc là, c'est le même dispositif. Donc la force, elle est dans ce sens-là quand j'applique une différence de potentiel. Donc vous avez l'adaptateur seul, ici l'adaptateur avec Na2S5. Donc ce qu'on peut voir, donc on a une signature de blocage de courant ici, et on voit bien une différence en rouge lorsque le polysulfure est dans la cyclodextrine. Donc maintenant, on va essayer de regarder est-ce qu'on est capable de quantifier cet équilibre, c'est-à-dire de déterminer le pourcentage de complexes et puis les cyclodextrines libres. Donc vous le voyez ici. Donc là, c'est une trace de courant. Là, donc en bleu, la cyclodextrine. En gris, donc la cyclodextrine avec le polysulfure. Et donc, on représente le nombre d'événements en fonction du pourcentage de blocage de courant. Donc, en vert, donc, vous avez donc, la distribution pour, je dirais, les complexes. Et puis, donc, on peut déconvoluer cette distribution pour regarder individuellement les cyclodextrines ou les complexes. Donc vous voyez qu'on a un pic à 64% pour la cyclodextrine, un pic à 74%. Donc ça veut dire que potentiellement, on va pouvoir voir des différences sur un soufre de ces espèces-là. Et puis surtout, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on retrouve en fait, tout simplement en regardant la proportion d'événements de complexes par rapport aux événements totaux, on a autour de 80% de complexes, et c'était ce qui avait été trouvé par RMN du proton. Donc on a une bonne concordance entre une technique, ce qu'on appelle en volume, et une technique en molécule unique. Donc maintenant, l'étape d'après, c'est d'essayer de différencier les différentes tailles de polysulfure. Donc là, vous avez les traces de courant, ici, bleu, vert, marron et rouge. Et donc, ici, à chaque fois, on rajoute simplement un soufre. D'accord ? Et donc, vous avez la distribution ici donc, du courant de blocage en fonction du nombre d'événements. Donc, ça, c'est simplement l'adaptateur. Et on voit bien que donc, c'est une distribution gaussienne. On voit bien que les pics se déplacent ici vers une augmentation du blocage de courant. Donc, on est capable, en tous les cas, avec une détection électrique, avec un nanopore, de pouvoir voir des différences juste d'un soufre. Alors pourquoi on peut observer ça? On a essayé de comprendre d'où ça vient. Donc là, vous avez le courant de blocage en fonction donc, de la bêta-cyclodextrine et de la bêta-cyclodextrine associée en fait, au polysulfure, c'est-à-dire des différents complexes. Donc ce qu'on voit ici, c'est que bien évidemment, le courant de blocage il augmente. Ce qu'on voit également ici, c'est qu'on a de la place, c'est-à-dire qu'on pourrait augmenter la taille des polysulfures ou diminuer. En tous les cas, théoriquement, on devrait pouvoir les voir. Ça, c'est important. Et puis maintenant, on a ici représenté le courant de blocage en fonction tout simplement de l'encombrement stérique dans le pore, donc par simulation. Et on voit une bonne concordance entre les mesures expérimentales et le volume occupé par les polysulfures dans la cyclodextrine. Alors maintenant, quelles sont les perspectives de ce type d'approche ? Ben, les perspectives, c'est de se rapprocher en fin de compte du milieu réel, c'est-à-dire du milieu des batteries, donc de travailler dans l'environnement batterie. Donc la première chose à dire, c'est qu'on ne pourra plus travailler avec une membrane lipidique. Il faudra substituer la membrane lipidique avec une membrane de polymère ou avec une membrane solide. Donc ici, on a un nanopore de nitre de silicium qui est percé avec un trou de l'ordre de 1 nanomètre. Et donc, on travaille dans des solvants organiques, dans des conditions batteries. On voit, en tous les cas, que le pore n'est pas abîmé. On a une belle réponse loi d'Ohm, ici. Et donc, l'idée, ça serait de pouvoir faire des trous extrêmement fins dans ces membranes solides pour essayer, en fait, de déterminer les différentes espèces de polysulfures. Alors, ces membranes, elles peuvent être intégrées dans des systèmes microfluidiques peu coûteux. Donc ça, c'est fait avec une imprimante 3D. C'est à peu près 50 centimes d'euros. On peut l'intégrer dans ces systèmes. Et on a vu que ça peut marcher jusqu'à à peu près 6 mois avec d'autres exemples qu'on a regardés. Alors, on peut aussi imaginer d'autres systèmes, c'est-à-dire d'aller vers des membranes hybrides où, dans ce cas-là, on a toujours une membrane solide. On peut amener ou fonctionnaliser un adaptateur ici. Alors cet adaptateur pourrait avoir à la fois le rôle, je dirais, de sensing, c'est-à-dire de détecter, de diagnostiquer, mais également de capturer, en fin de compte, des espèces délétères pour la batterie. Et donc de pouvoir imaginer de le faire à une échelle un peu plus grande avec une membrane. Donc on peut aussi penser à des membranes de polymère percées pour lesquelles, en fait, on peut ajuster très finement, en fin de compte, avec des oxydes métalliques, la taille du trou, et puis aussi des systèmes hybrides pour lesquels, en fait, on aurait donc une membrane solide ou polymérique avec un pore, mais il faudrait que ce pore il soit extrêmement résistant à l'environnement. Alors, il en existe un certain nombre qui résistent à ce qu'on appelle aux agents chaotropiques, qui résistent à la température, et donc, pourquoi pas essayer de faire ce type d'approche hybride. Voilà, j'ai fini mon cours. Donc, vraisemblablement, il faudra du temps, hein, parce que vous avez vu qu'il a fallu du temps pour développer les séquençages sur des molécules biologiques. De passer de la biologie au domaine des batteries, c'est aussi compliqué, parce qu'on travaille dans un environnement qui est aqueux, et là, on n'est plus dans un environnement aqueux. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, et je remercie également les collaborateurs de mon équipe et les collaborateurs avec qui j'ai eu plaisir de travailler pour développer ce travail. Merci beaucoup.